J'ai vraiment négligé le confort. En fait, j'ai tout misé sur la nourriture. J'ai visé au départ d'avoir le sac le plus léger possible, tout en respectant les 6,5 kg qui étaient obligatoires au départ. Bah, j'avais pas de matelas, j'avais juste, j'avais tenue de rechange, j'avais tout juste de quoi me laver. Enfin voilà. Le fait de dormir par terre sur le sol dur, ça, j'ai vraiment, vraiment eu du mal.
Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra-trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants, qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable physiquement ou mentalement et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Marilyn est une ultra-traileuse qui a remporté l'édition 2023 du mythique Marathon des Sables. Cet épisode, c'était bien sûr l'occasion d'échanger sur sa vie et son parcours d'athlète, mais aussi et surtout de vous proposer un compte-rendu d'une course de légende. Marilyn est une athlète Simalp, le sponsor de cet épisode. Simalp, c'est une marque française créée en 1964 par des amoureux de montagne pour des amoureux de montagne. Ils conçoivent des équipements de trail, d'alpinisme, de ski ou encore de randonnée, donc c'est assez varié mais ça reste toujours dans l'univers de la montagne. Ils mettent l'accent sur la technicité, la durabilité, l'innovation et l'accessibilité de leurs produits, ce qui est plutôt pas mal pour nos portefeuilles. Personnellement, j'adore le matos outdoor, je réalise des tests pour plein de marques différentes depuis plus de 10 ans, donc je reconnais un produit de qualité quand j'en ai un entre les mains. Dans le cas de Simalp, j'ai eu l'occasion de partir en montagne avec plusieurs de leurs pièces emblématiques. Première couche, veste isolante, veste étanche, short pantalon. Et franchement, ça n'a été que de bonnes expériences. Les produits sont bien pensés, c'est robuste et en plus, c'est français. Un détail que j'adore, ce sont les pictogrammes qui présentent les caractéristiques techniques de chaque produit. Isolant, étanche, anti-odeur, etc. Ce qui est super pratique lorsque, comme moi, vous commencez à avoir pas mal de vêtements dans vos placards et que vous vous y perdez. Simalp commercialise en direct sur internet, ce qui leur permet d'offrir des tarifs très compétitifs. Donc foncez faire un tour sur leur site simalp.fr, C-I-M-A-L-P.fr. Excellente écoute à vous les frappés. Bah, je pense que ça serait d'ailleurs ma première question. La van life, pourquoi la van life en tant que sportive professionnelle?
Oula, alors déjà je ne suis pas professionnelle. Je ne vis pas de ma passion aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi la van life? Parce que c'est un rêve que j'avais depuis longtemps. Et puis un jour, moi, quand j'ai une idée en tête, c'est fini, il faut que je le fasse et ce n'est pas autrement. Donc, je me suis lancée, j'ai acheté le van, enfin, j'ai revendu mon appartement, toutes mes affaires, la plupart, soit données, soit revendues, soit mis de côté chez la famille, mais bon, pas grand-chose. Et j'ai eu un coup de cœur pour un van chez Volkswagen, donc voilà, je l'ai acheté pour vivre dedans.
Le mythique California, c'est ça que t'as pris?
Exactement, ouais, un peu trop plus nouveau bien. Parce que c'est une nouvelle version, mais oui, c'était mon rêve. En fait, ma tante elle en avait un et j'étais déjà partie avec elle et voilà, c'était, j'adore ça et c'est elle qui m'a donné un peu le goût de la van life.
Génial. Alors, sportif professionnel, j'étais quasiment, enfin, j'étais convaincu que tu l'étais, vu le nombre de courses auxquelles tu participes, non. Tes résultats, etc. C'est quoi ta situation du coup?
Alors, en fait, au départ, j'étais ingénieur en matériaux dans une grosse société il y a un an. Et ben, je ne me reconnaissais pas du tout, plus en tout cas dans ce que je faisais. Ça ne me plaisait plus vraiment. J'avais plus trop les mêmes valeurs avec ce métier en tout cas. Et donc, j'ai négocié un départ à l'amiable pour pouvoir reprendre des études et une formation en parallèle. Donc, aujourd'hui, je fais des études de BTS et aussi une formation d'entraîneur en athlétisme. Donc, mon objectif
D'accord.
est d'être coach sportif et coach en nutrition sportive. Moi, je le suis déjà plus ou moins, on va
Ok.
dire, en parallèle.
Ouais, ce que j'allais dire, c'est des domaines dans lesquels on va dire que tu es quand même pas mal déjà crédible, non?
Je ne sais pas, mais bon, j'essaie de l'être en tout cas.
Ok. Et comment est-ce que tu as amorcé ce virage, tu vois, entre une carrière professionnelle, enfin ingénieur en sciences des matériaux avec une spécialisation sur les satellites, c'est ça, j'ai vu, ou pas du tout?
Non, en fait, j'étais ingénieur matériaux précédé, j'ai travaillé 2 ans pour les satellites, mais plutôt à la fin. En fait, c'est la même boîte. J'ai été mutée des sonars, en fait, sonars militaires au satellite, et après, je suis revenue au sonar. Donc, dernièrement, c'était plutôt les sonars militaires.
D'accord. Ok.
Mais c'était le même.
Et la
cœur
place
de
du sport, du coup?
Toujours fait un peu de sport, mais bon, pas à gros niveau depuis que je suis jeune. Hein. Je suis assez hyperactive, j'adore la nature, etc. Donc, j'ai fait au départ tout un tas de sports. Je suis passée par. La natation, de la boxe, du tennis, enfin un peu tout, sans jamais vraiment accrocher sur un sport en particulier. Et puis, j'ai commencé à courir petit à petit, au départ avec mon ex qui s'était mis à courir aussi, mon ex-mari. Donc, on avait couru et lui, il a arrêté et moi, ben, j'étais prise de passion et j'ai continué. Et voilà, j'ai augmenté petit à petit les distances, j'ai couru avec les collègues de boulot et j'ai fait mes premières compètes et voilà, donc grande passionnée. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, soit je le fais pas, soit je le fais à fond et voilà, donc je le fais à fond.
Génial. Mais qu'est-ce que tu dis, enfin, tu dirais que c'est quoi que tu as trouvé dans le trail qui fait que tu as accroché versus toutes les autres disciplines tu vois, que tu avais pu tenter ou visiblement, bah, il n'y avait pas eu ces atomes crochus.
C'est une bonne question. Je pense que pour moi, courir, c'est plus naturel que d'autres sports, beaucoup plus techniques. En fait, les sports techniques, je suis nulle. C'est pas mon truc. Même la natation, j'adore nager, mais je n'ai pas les bons mouvements, donc je ne vais pas vite. Mais après, je serais capable de nager pendant des heures, mais je n'ai vraiment pas les bons mouvements. Les sports d'équipe, c'est pas trop mon truc non plus. Et donc, la course à pied, je trouvais que c'était, je sais pas, naturel pour moi de courir. Et voilà. Et d'autant plus que être à l'extérieur, j'adore ça. Donc, c'était naturel au final pour moi de courir. Et après, je me suis demandé pourquoi je l'avais pas fait avant au final.
Ouais. Et tu disais que tu avais petit à petit allongé les distances.
Oui.
Du coup, j'ai envie de te poser un peu la même question, tu vois. Enfin, qu'est-ce qui t'a attiré, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie d'allonger? Et je te la pose parce que récemment, j'ai échangé avec quelqu'un que tu connais très bien, Alexia Coudray, qui fait aussi
oui.
partie de la team Simalp, et qui, elle, pour le coup, avait plutôt envie de rester sur des distances plus courtes, de mémoire, plutôt entre 10 et 30 kilomètres. Et c'est là-dedans qu'elle s'éclate et elle prend, voilà, elle fait beaucoup, beaucoup de... prend beaucoup de dossards, quasiment une soixantaine l'année dernière, donc
tout,
vraiment
toutes
énorme.
Toutes les semaines, un ou deux dossards, oui.
Ouais, voilà, donc ce qui est quand même, franchement, en termes de rythme, assez hallucinant. Et elle disait justement qu'elle, le fait de monter dans les distances, ça ne l'attirait pas forcément. Toi, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie d'aller explorer, on va dire, des courses de plus en plus longues?
Je me sens bien, en fait, à partir d'un... Enfin, je prends vraiment du plaisir à courir, c'est à partir d'un certain moment. Au début, je suis en fait plutôt un diesel, un vieux diesel.
Okay.
Donc, il me faut un petit moment pour me mettre dans le truc et me sentir bien. Il y a ça. Et le fait aussi que je suis pas performante et pas puissante au niveau rapidité. Donc, le trail court, généralement, je me fais démonter et j'arrive. Enfin. En tout cas, au niveau, c'est plus difficile pour moi parce que je ne suis pas une rapide comme certaines peuvent l'être. Je suis
okay.
plus endurante que rapide depuis toujours, hein, depuis que je suis jeune. Et voilà. Mais c'est vraiment le fait que j'ai besoin de courir longtemps pour me sortir bien et vraiment avoir ma dose de sport.
J'ai eu un invité il n'y a pas très longtemps qui fait lui de l'ultra-cyclisme, Steven. Le Yarick, et qui me disait que en fait lui ses courses elles commencent au bout de 1000 km, tu vois, ce qui paraît, voilà, les, sont, on va dire qu'au bout de 1000 km, le diesel est chaud et là, il peut se lancer. Est-ce que toi, tu as un peu un point de repère comme ça, tu vois, que ce soit en distance ou en nombre d'heures passées sur la course, où tu te dis, allez, là, c'est bon.
Oui, sur une compète, c'est, je dirais, au bout de 2 heures, je commence à être dans mon élément.
Ok.
Mais okay, à vélo, okay, c'est pareil. Au final, j'adore faire du vélo, mais je vais pas vite. Mais je suis capable. Tu vois, il y a 2 jours, j'ai fait. Je suis allée voir mon frère. J'ai fait 200, presque 200 bornes.
Ah ouais. Oh, puis,
donc. mais je vais à la même vitesse en fait que je fasse 200 bornes ou que je fasse 2 heures de vélo. C'est pareil pour moi.
Ok. Parce que d'un point de vue, j'aime bien sur le podcast, tu vois, explorer un petit peu aussi évidemment les performances physiques, c'est toujours super impressionnant et on va en parler. T'as un palmarès qui est vraiment impressionnant, mais je suis aussi toujours un peu curieux, tu vois, de l'aspect mental, de comment est-ce que tout ça se met en place, notamment dans les épreuves. Toi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, pourquoi 2 heures ? Est-ce qu'au bout de 2 heures, c'est physiologique, c'est-à-dire tu sens que voilà, ton corps est lancé, tu as un rythme dans les jambes et tu peux exprimer ton plein potentiel, ou est-ce que c'est psychologique où tu dis, ok, là, ça y est, c'est bon, je suis dans la course. Je lâche les chevaux et le corps suivra ou pas, d'ailleurs peut-être que des fois t'exploses, mais c'est quoi, c'est plutôt physique, c'est plutôt mental, c'est un mix des deux, t'arrives à le dire ça?
Je pense que c'est un mix des deux. Alors déjà, je déteste les départs et les 30 premières minutes de course parce que ça part très très vite. Ouais. Moi je suis incapable de partir très vite et j'aime pas ça, donc ça me stresse. Je les vois partir, j'ai dit oula, mais elles sont trop fortes ces filles là ou ces garçons. Et ils sont partis à toute allure, je vais me prendre la, enfin voilà, je vais arriver dernière, enfin pas dernière, mais bon, je vais, c'est pas ma course, c'est fini, enfin le niveau il est trop haut, voilà. Après je commence bien sûr, ceux qui sont partis trop vite, bon il y en a qui performent, qui restent devant, mais il y en a beaucoup qui finissent par craquer rapidement au bout d'une heure ou deux, donc c'est là aussi que je commence à rattraper et psychologiquement, ça me fait du bien. Je me dis, ah ben non, finalement, ceux qui sont partis trop vite, ils n'ont pas géré et je ne vais pas finir à la ramasse. Donc, il y a déjà ça. Et aussi, je pense physiologiquement, je me sens, ouais, je commence à trouver mon rythme au bout d'un certain moment.
Ok.
Les débuts sont toujours difficiles.
Ouais. C'est très intéressant ce que tu dis sur l'aspect psychologique où finalement ça fait du bien de re-rattraper tous ces gens qui sont partis à fond.
Ah, mais c'est toujours pareil sur toutes les courses et à chaque fois ça fait la même chose. Je suis pas bien en début.
Ouais, donc ça, bah, ça c'est quand même un bon tip, tu vois. Moi je sais que j'ai plutôt tendance à me laisser aussi emporter sur les quelques courses que je fais par le rythme effréné au départ où tu dis punaise, mais c'est pas possible. Je suis pas en canne ou le niveau est vraiment trop élevé. Comment ça se fait que tout le monde court aussi vite? Et puis à l'inverse de toi, généralement moi je me laisse entraîner et je finis par exploser. Donc voilà, il faut que je mette en pratique ce que tu sais faire visiblement très très bien.
Il faut être très patient sur les ultras en fait.
Ouais. Ouais. Ça c'est quelque chose que tu as développé de manière empirique ou comment ça s'est fait en fait d'ailleurs on va dire ta montée en puissance sur l'ultra, sur le trail en général. Est-ce que tu as été rapidement accompagné? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel j'ai l'impression, en tout cas d'un point de vue pro, t'es en train de, voilà, d'amorcer un virage, donc ça se structure de ce côté-là. Mais côté sportif, est-ce que t'as un suivi, une équipe, d'un point de vue, tu vois, coaching, je sais pas, sportif, des diététiciens, etc. Est-ce que tout ça est déjà en place ou ça se construit au fur et à mesure encore?
Aujourd'hui, j'ai un entraîneur qui me suit. Donc, Gérard Lopez, qui est dans mon club. En fait, comment c'est venu? Je ne cherchais pas du tout ça au départ. Je faisais mes petits trails régionaux, etc. Je commençais à gagner certaines courses et à bien m'amuser. Et voilà. Et puis, un jour, il y a donc Samuel Bonodo, qui est mon ancien coach, qui est venu vers moi en me disant qu'il aimerait bien me coacher parce qu'il voyait qu'il pouvait faire quelque chose avec moi. Voilà, parce que je m'entraînais vraiment au feeling, je courais un peu, maximum 1h30, mes sorties faisaient maximum 1h30, hein, pas plus. Et par contre, je me régalais en compétition à faire des longues distances, mais moi, j'avais aucun entraînement structuré ou quoi que ce soit. Hein. Je courais entre midi et deux, le soir ou le matin, et voilà. Un peu de vélo, un peu de natation parce que j'aimais bien. Et donc, j'ai commencé à travailler avec lui et ben, ça s'est très bien passé. Et j'ai commencé à suivre voilà, ses plans. Et finalement, ben, je trouvais que c'était bien parce que ça, c'était ludique. Ça changeait un peu d'être toute seule et d'avoir quelque chose. Enfin, j'avais plus à trop réfléchir. Qu'est-ce que j'allais faire aujourd'hui? Est-ce que je cours comme ci? Est-ce que je cours comme ça? Donc, je suivais ses plans et voilà, petit à petit, ça s'est fait comme ça. Et donc, il m'avait fait énormément progresser à l'époque. Et notamment, j'avais gagné les championnats de France en 2018. Et puis, bon, finalement, on a pris, avec Samuel, on a pris des chemins un peu différents, même si ça se passait très bien. Et du coup, je suis allée vers un autre entraîneur qui est Gérard Lopez aujourd'hui, qui me suit. Et voilà, donc finalement, j'y ai pris goût et je continue à suivre ses entraînements, même bon, si des fois, il craque un peu avec moi parce que j'ai tendance à en faire toujours un peu plus.
Oui, j'ai lu ça. Visiblement que tu n'es pas trop fan des périodes de repos.
J'ai vraiment du mal avec le repos. Je sais que ce n'est pas ce qu'il faut faire et ce que je ne conseillerais pas de faire, mais personnellement, j'ai vraiment du mal avec le repos.
Donc, en fait, le repos, ce que j'ai compris, c'est que tu as tes entraînements pour le trail et qu'à côté de ça, bon, bah, comme tu es une amoureuse d'outdoor, de montagne, quand tu es supposée être en repos, en fait, il se passe quoi? C'est que tu pars faire des treks ou ce genre d'activité, c'est ça?
Oui, ou je vais voir mon frère à vélo qui a 200 km d'ici.
Ouais, voilà, c'est ça.
Je vais nager, je vais traverser le lac de l'autre côté et voilà. Enfin. Après, ce n'est pas des trucs violents, mais bon, ça me fait vraiment du bien, j'en ai besoin. Et les jours où je ne fais rien, bon, j'en ai quelques-uns, hein, c'est très difficile pour moi.
Ok.
Donc, okay, okay. Ben, voilà, il s'habitue avec ça, il fait avec ça, mais bon, il m'engueule un peu des fois. Il a raison.
Est-ce que tu penses que c'est peut-être ça qui fait la différence? Parce que bon, là, tu nous as juste parlé des championnats de France que t'as, de trail long que tu as gagné en 2018, mais il y a quand même pas mal d'épreuves, dont une assez récente quand même, dont on va parler, le Marathon des Sables que tu as remporté. Tu penses que c'est le fait que tu aies ces entraînements croisés ou en tout cas un rythme, même s'il n'est pas forcément violent à l'entraînement, dans le sens où voilà, ce n'est pas des séances d'intervalle que tu enchaînes, mais les treks, c'est peut-être un peu plus doux, le vélo aussi. Et est-ce que tu penses que c'est le volume que tu fais qui te permet d'avoir ces résultats quelque part, même si tu ne le recommandes pas de ne pas trop avoir de repos?
Je ne sais pas, parce que si je me reposais plus souvent, je ne sais pas ce que ça ferait au final. Ouais. Après, la plupart des athlètes élites, ils ont peut-être plus de périodes de repos que moi et il y en a qui performent beaucoup plus. Donc, je ne sais pas, c'est juste que moi, j'en ai besoin, que j'adore ça et j'ai besoin d'être à l'extérieur, j'ai besoin de bouger et que je ne me sens pas bien si je ne fais rien. Après, non, je ne sais pas du tout si ça y fait quelque chose ou pas. Bon, après, rien qu'avec les entraînements, parfois que me fait mon coach, il y a des gros volumes. Donc, pendant les grosses périodes, j'en fais pas plus. Hein, je fais ce qu'il me dit et,
ouais.
Et voilà. <c'est... rire> Il me fait déjà bien bosser aussi.
Excellent. Donc, je l'évoquais récemment. Récemment, il y a eu une grosse épreuve, le Marathon des Sables, qui est quand même maintenant, j'aurais envie de dire, je suis pas un spécialiste comme toi, mais peut-être autant médiatisé, aussi connu que l'UTMB, même si c'est des épreuves assez différentes, mais on en entend quand même beaucoup parler. Donc cette épreuve, bah, tu l'as remportée, première féminine. Ce qui était, d'ailleurs, c'était ta première participation, hein, si je ne me trompe pas. Tu étais déjà allé au Maroc, mais pour le MDS, c'était la première fois.
Oui.
Ok. Eh bien, écoute, ce que je te propose, c'est que tu nous en dises un petit peu plus. Comment, déjà, peut-être, qu'est-ce qu'elle a représenté pour toi, cette course, avant que tu en prennes le départ? Et puis, bah, comment est-ce qu'on se prépare à une épreuve comme ça?
Alors, le désert, c'est toujours quelque chose qui m'a attirée. Je ne sais pas pourquoi. J'en parlais tout le temps, même quand je ne courais pas. Mon rêve était de traverser le désert. D'ailleurs, j'ai retrouvé un livre que m'avaient offert mes colocs quand j'étais en école d'ingénieur, qui était sur le Sahara et qui disait « J'espère que tu réaliseras ton rêve un jour ». Voilà. Donc, quand j'ai commencé à courir, c'est une des épreuves qui m'a attirée aussi. Sauf que c'était pas évident d'y aller parce que c'est un gros budget et donc j'ai dû attendre d'être un peu plus connu entre guillemets et de pouvoir être invité pour la course. Okay. Et donc voilà, ça s'est fait la dernière comme ça. Et bien sûr, j'étais hyper ravie de pouvoir la faire. Après, au niveau de la prépa, j'avoue que ça m'a beaucoup stressée parce qu'en fait, moi, je me suis un peu préparée, pas à la dernière minute, mais bon, j'ai commencé vraiment à finaliser mon sac 2 ou 3 semaines avant, alors qu'il y a des gens qui l'avaient fait
Ah oui.
depuis déjà un an et qui avaient déjà tout pesé, tout réglé et tout mis dans le sac. Le sac était déjà tout prêt. Parce que bah, quand c'est pour la première fois, ce n'est pas évident parce que chacun donne des conseils différents. Donc j'en ai pris un peu partout des conseils et j'en ai pas mal aussi pris des personnes à qui j'allais partager la tente, hein, que je ne sais pas, mais dont voilà, on avait été mis en contact. Et j'ai essayé de faire un sac un peu en prenant enfin, le sac et la. La prépa, c'est mon entraîneur qui a géré plus ou moins, mais oui, enfin, oui, surtout au niveau matériel, je ne savais pas du tout quoi faire. Et bon, voilà, je suis partie avec quelques conseils et j'ai un peu adapté. Après, au
Oui, parce
niveau de
que
la.
peut-être s'il y en
Oui.
a qui connaissent pas, enfin qui sont pas trop familiers du détail de l'épreuve, en fait c'est une course à étapes, donc ça veut dire que bah, tous les soirs les concurrents se retrouvent dans une sorte de village athlète où il y a des tentes qui sont dressées et où tout le monde peut se reposer avant de repartir le lendemain, tout le monde à la même heure. Donc c'est pas une course où le chrono est enclenché sur la ligne de départ et arrêter sur la ligne d'arrivée en mode non-stop. Il y a des étapes.
Oui, c'est ça. En précisant, c'est une course en autonomie complète. L'organisation ne fournit en fait que l'eau et les tentes berbères. Tout le
D'accord,
reste,
ok.
c'est sur le dos.
Ok. Et donc, t'as pas de sac d'allègement ou autre, c'est-à-dire que le matos
Non,
avec lequel tu
non, non.
pars,
Tout
tu le gardes jusqu'au
est.
bout.
C'est ça.
D'accord, ah ouais,
Et
ok.
on n'a même pas le droit de s'en débarrasser. Tout est contrôlé. Enfin. Il y a des vérifs de sac pour pas, ben, je sais pas, s'il fait trop chaud, on ne laisse pas un pull quelque part dans la poubelle, quoi. Il faut le garder du début à la fin.
D'accord, ok, ouais, donc c'est quand même un
Donc c'est pour
paramètre.
ça que c'est très compliqué de préparer
Ouais.
son.
Et ouais. Parce que c'est quoi les spécificités d'une course comme ça dans le désert? C'est les écarts de température, c'est le sable qui s'insinue partout, c'est la répartition du poids avec l'eau. C'est quoi un peu les enjeux auxquels tu n'étais pas trop habitué pour faire ce fameux sac?
Bah en fait, j'étais pas habituée à grand-chose. Hein. Alors oui, déjà, on peut parler du sable. Donc bon, moi, pour ma prépa, je suis allée m'entraîner 2 semaines en Camargue. La
Ok.
plage de l'Espigette, c'est une plage qui est immense. Et bon, c'est pas tout à fait le Sahara, mais bon, disons que ça m'a pas mal aidée. Donc j'ai testé les guêtres. J'avais jamais mis des guêtres. Quelles chaussures mettre? C'est compliqué. Est-ce qu'on met des chaussures de trail, des chaussures de course à pied? Donc ça, c'est pareil, c'est partagé, il y a tous les avis. Quelles chaussettes, parce que c'est hyper important. Est-ce que je vais avoir des cloques, pas des cloques? Généralement, j'en ai pas sur les trails, enfin, ou très peu. Et puis là, à la fin, enfin, j'ai énormément souffert des pieds.
Parce que l'enjeu, pardon, je te coupe Marilyn, mais sur ce point en particulier, l'enjeu du coup, c'est quoi? C'est est-ce que qui est de minimiser au maximum les grains de sable qui rentrent, ou est-ce que tu as des gens qui se disent l'inverse, c'est-à-dire limite j'y vais en sandales, comme ça, ça rentre mais ça sort tout de suite. Et je te demande parce qu'en fait, j'avais entendu, j'avais, il y avait un peu cette problématique sur une course en Écosse. Où tout est tout le temps mouillé, et donc il y avait un peu deux écoles. Donc c'est un extrême inverse, hein, là c'était pas le sable, c'était l'eau. Deux écoles, il y en a qui disaient bah, il faut absolument que en gros mes pieds soient au sec, donc j'essaie de les rendre étanches au maximum, les chaussures, et d'autres qui disaient de toute façon ça va rentrer, donc autant mettre voilà, limite les chaussures que tu mets pour aller marcher dans les rochers au bord de l'eau, tu vois. C'était un peu les deux extrêmes, donc je me demande si c'était comme ça aussi, si c'est comme ça pour le sable. Ou si le fait de laisser rentrer le sable, c'est un non-sujet et qu'il faut absolument que t'aies rien qui rentre.
Alors moi j'ai vu personne sans guêtres. Alors j'ai peut-être pas fait attention. Il y
Ok.
en avait peut-être un ou deux parce qu'on était beaucoup beaucoup. Hein, mais même les Marocains ils ont des guêtres. Après les guêtres c'est très très efficace. Hein. Au final c'est pas le sable qui m'a donné les ampoules, je pense pas. J'avais très peu de sable dans les chaussures ou alors c'était vraiment minimisé parce que maintenant ils font vraiment des systèmes de guêtres au top. Ce qu'il y a c'est que ben, quand on a les guêtres on transpire, on a les pieds tout.
Eh oui.
Enfin voilà, c'est avec 45 degrés, 50 degrés qu'on a eu. Mes pieds n'étaient pas habitués là-dessus. Et puis même, on a quand même peut-être quelques grains qui rentrent et les pieds restent sales puisqu'on ne se lave pas complètement. On ne peut pas se laver. Même si on les nettoie un peu, voilà, les pieds ne sont pas nickel. Donc, quand on remet des chaussures, ça peut frotter quand même. Et non, je pense que c'est plus la chaleur et l'humidité qui ont fait que mes pieds étaient un peu bousillés à la fin. Et aussi le fait que j'ai
L'humidité
fait
du fait de la transpire, hein, c'est ça, parce
la
qu'autrement il fait
transpiration, et
complètement
aussi
sec.
je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'avais fait une grosse connerie, c'est-à-dire que quand je me mouillais la tête au ravito ou même le matin, enfin, je mouillais les pieds et c'est ce qu'il fallait surtout pas faire.
Ah oui, ok.
Voilà. Et donc c'est pas évident de prendre une grosse bouteille, de se mouiller complètement parce qu'il faisait tellement chaud et il aurait fallu que je fasse vraiment attention à pas mouiller les pieds.
Ok,
Et voilà. Mais
super intéressant.
j'ai jamais autant souffert des pieds. Je sais pas comment j'ai pu recourir le lendemain, hein, parce que bon, les 2 premiers jours ça allait, le troisième ça a commencé, le quatrième c'était. Arrivé au bout de l'étape, j'avais des pieds en feu. Heureusement, sur le bivouac, on a vraiment des bons podologues qui étaient là. Il y en avait peut-être une quinzaine, qui étaient là exprès. Les gens, ils faisaient la queue pour
Ok.
aller au podologue, hein. Moi, j'ai la chance que j'arrivais dans les premières, donc j'y allais tout de suite et voilà, j'attendais pas trop longtemps, mais ils faisaient des miracles, ils mettaient des pansements, ils mettaient des, enfin, ils enlevaient les cloques, ils désinfectaient et le lendemain, j'arrivais à courir, mais je sais pas comment. Parce que la dernière étape, à la fin du marathon, j'ai énormément souffert des pieds. En plus, les pieds gonflent avec la chaleur, donc ça aide pas.
Et oui, c'est ce que j'allais te demander, oui.
Ça aide pas. Et on
Oh
fait de la
punaise,
rétention
ok.
d'eau aussi, plus ou moins, parce qu'on prend beaucoup de pastilles de sel aussi pour justement pas trop évacuer l'eau pour la garder. Et ça, bon, ça a des avantages et des inconvénients aussi. Donc,
Ouais.
perso,
Ok,
à la
donc.
fin, tout à la fin, j'avais les pieds qui avaient doublé, mais après la course, avant, ils ont plutôt tenu bon. Et j'ai dû porter des claquettes pendant une semaine.
Ah ouais, oh
C'était peut-être une des
punaise, ok.
pires vis-à-vis des pieds.
Ok, donc le sable, l'enjeu c'est que ça rentre
Donc, il y
pas,
avait le
mais
sable, ouais, déjà.
ouais,
Et
au final les pieds ont
bah, au final,
souffert et
j'arrivais
les.
quand même à courir, mais bon, il fallait pas y penser, quoi.
Ouais.
Mais
Parce que
le
tu
pire.
cours, oui, j'imagine que pour arriver première féminine, tu cours quasiment tout le temps. C'est quoi le ratio marche-course
Alors,
sur une.
ouais, je sais pas, en temps normal, parce que bon, à l'étape de 90, j'ai quand même eu un gros coup de fatigue. Je sais pas, c'est peut-être 90% de course, pour moi
Ah
en tout
ouais,
cas,
punaise.
et 10% de marche.
Waouh.
Sauf
Ah ouais.
l'étape du 90, où il y a des portions où j'aurais pu courir, mais j'étais presque en hyperthermie, je sais pas comment on dit. Et j'ai eu un moment donné où j'ai marché alors que c'était plat et que j'aurais pu courir parce que j'étais vraiment, vraiment pas bien et que j'avais trop chaud.
Et cette
Mais
étape, tu peux me rappeler, j'arrive jamais à me souvenir, c'est le quatrième jour, c'est ça?
c'est le 4e jour, oui, parce qu'il y a 5 étapes plus une étape solidaire. Et elle faisait cette année, en plus, ils nous ont gâté 90 km.
Wow, ok.
En sachant que, contrairement à ce que tu disais au début, sur l'étape de 90 et sur l'étape de 45 km, ceux qui sont un peu plus forts partent après les autres.
Ah d'accord, ok.
Donc on est parti vraiment quand il faisait très très chaud. Les
Ok.
premiers, alors je sais plus, hein, je crois qu'on est parti à, je sais plus, c'était 10 heures. 10 heures, alors que les autres étaient partis à 7 heures. Des choses
Ah
comme ça.
ouais. Donc il fait déjà quoi une trentaine de degrés quasiment à 10 heures.
Et, ouf, même plus, hein, il faisait peut-être 35 degrés déjà.
Oh
Et l'étape du marathon, on
punaise,
est parti 1 heure après. En fait, c'était pour pouvoir, enfin, comme on était pas beaucoup à partir de. Après, c'était pour pouvoir avoir du monde tout le long, quoi, que les gens ils nous
ok.
encouragent, enfin, là, au début, qu'on ne se retrouve pas tout seul tout de suite.
Ouais. D'accord. Ouais,
Et aussi
peut-être
qu'on
que d'un point de
puisse.
vue sécurité.
Il y a ça et le fait qu'on arrive aussi la nuit, ce qui est super sympa, ça.
Ok. Ok, donc premier gros paramètre, le sable,
Le sable, mais à la limite, ce n'est
l'hydratation.
pas ce qui m'a gêné le plus. Le pire, c'était la chaleur.
Ouais.
La chaleur, on est. Enfin, déjà, à cette époque de l'année, on n'est pas vraiment habitué, même si j'habite dans le sud. Et d'autre part, on a eu des températures de canicule marocaine. Enfin, je ne sais pas comment on dit. où ils ne s'attendaient pas à voir ça non plus, parce que ce sont des températures plutôt juillet-août d'habitude, alors que là, on
Ah oui.
était en avril-mai. Et donc, même, on avait tout le temps chaud, on a eu entre 45 et 50 degrés la journée, et même la nuit, c'était d'habitude, les autres années, les gens prenaient presque une doudoune et ils avaient froid. Il faisait peut-être 5 degrés, 10 degrés max. Et cette année, non, il faisait encore 30 degrés la nuit. Donc, ben,
Punaise.
c'était pas évident à récupérer. Et
Ouais, ce que j'allais dire en
le
termes de
pire,
récup.
il y a ça. Et puis, l'eau qu'ils nous fournissaient était tout le temps bouillante. Donc, on buvait de l'eau chaude tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tellement que, ben, à la fin, que si on ne pouvait pas faire de feu pour faire chauffer de lyophilisé, il n'y avait pas besoin, quoi, en fait. On mettait
Mais
direct
non.
dans. Ah, si, direct dans le lyophilisé, ça, c'était déjà chaud. Il n'y avait pas forcément besoin de faire le feu.
Ah
Elle
ouais.
était bouillante.
Oh
Donc, ça
punaise.
écœure. Donc,
Oh
pour
là
savoir
là, ok.
quand même, parce que si on ne boit pas, on est mal. Mais voilà,
Ouais.
c'est.
Ok,
C'était pas évident.
donc
Donc, ça, c'était le pire.
ouais, et
C'était
puis ouais, même en vivant dans le sud, comme tu dis, compliqué de s'habituer à enfin, comment tu peux t'entraîner à courir par 45 degrés autrement qu'en allant sur place? C'est compliqué,
Ah,
non?
bah, je sais
Tu
pas,
cours
c'est
couvert ou
compliqué.
non, tu peux pas.
Et après, je sais pas s'il y en a qui font du sauna ou des trucs comme ça, mais même, c'est, il y a que les Marocains qui sont là depuis qu'ils sont petits, qui sont habitués à ça. Même si
Ouais.
tu vas y aller 2 semaines, je pense que quand tu reviens en France, tu te déshabitues tout de suite, toi,
Ouais.
il faut être né là-bas. Ouais. Et donc, du coup,
Ok.
l'eau était très difficile à gérer parce que même moi qui suis pas une grosse buveuse d'eau, sur les trails, je bois très peu. Il y a des fois, je suis arrivée à sec, au ravito, alors qu'ils étaient espacés peut-être de 10 à 12 km.
Donc ça veut dire qu'en termes de consommation, tu étais à combien sur 10 km,
Alors,
pardon?
moi, j'étais à 1,5 litre pratiquement, parce que bah, j'avais deux flasques de. Non, même pas, de 1 litre 2, donc ouais, 1,4 litre. Il y en a qui prenaient carrément la 2. En fait, on avait droit à une ou deux bouteilles d'eau de 1,5 litre. Sur les ravitaux. On pouvait en
D'accord.
prendre plus, c'est vraiment voilà, pour les marcheurs qui mettaient beaucoup de temps, mais on avait des pénalités. Donc, ce que je faisais, comme j'avais que deux flasques de 1,4 litre, parce que je ne m'attendais pas à boire autant, et la grosse bouteille, je n'avais pas envie de me la porter, je ne savais pas comment la porter. Il y en a qui avaient des systèmes pour avoir les deux grosses bouteilles sur eux, mais je ne sais pas trop, voilà. Donc, je me servais d'une bouteille pour me mouiller complètement et une bouteille que je buvais et je remplissais mes flasques.
OK.
Mais c'était pas assez. C'était difficile.
Punaise, ok. Donc l'hydratation, un gros sujet aussi. Et bah, tu as un peu répondu, mais j'allais te demander du coup sur la récup, comment est-ce que ça se passe? Parce que tu partages la tente, donc j'imagine que pas tout le monde se couche au même moment, qu'il y en a peut-être qui
On
discutent,
était
etc.
dès qu'il faisait nuit, généralement on dormait, hein. Enfin on dormait. On
Ah
essayait
oui,
de dormir.
ok.
Et dès qu'il faisait jour, on était levé de toute façon.
Ok.
Mais j'avoue que je pense que j'ai pratiquement pas dormi. Alors il y
Ah
avait
oui.
l'adrénaline, enfin comment on dit, les endorphines de la course. Parce que généralement quand je fais un trail le soir, je dors jamais une compétition. Et là, bah, vu que c'était tout le jour, bah, j'ai très peu dormi. Il y avait ça, le fait que j'ai vraiment négligé le confort. En fait, j'ai tout misé sur la nourriture. Enfin, j'ai visé au départ d'avoir le sac le plus léger possible tout en respectant les 6,5 kg qui étaient obligatoires au départ.
Ok.
Mais pour cela, bah, j'ai vraiment négligé le confort et j'ai tout misé sur la nourriture. Ce qui est bien aussi, mais disons que bah, j'avais pas de matelas, j'avais tenue de rechange, j'avais tout juste de quoi me laver. Enfin, voilà. C'était un peu cradoque, mais. C'était pas grave, on était tous dans le même cas, on va dire, mais le fait de dormir par terre sur le sol dur, ça, j'ai vraiment, vraiment eu du mal.
Ah bah tu m'étonnes. Bon, à la
Alors.
limite, c'est peut-être pas plus mal qu'il ait fait chaud la nuit parce que sol dur un peu pierreux, s'il fait 5 degrés, t'es congelé, c'est un bloc de glace en fait.
Peut-être, oui. Et ben, il y avait deux écoles aussi. Il y en a qui me disaient non, c'est pas la peine. Il y en a qui me disaient il faut prendre un matelas. Donc ben, j'ai fait le choix de ne pas du tout en prendre. Après, il y en avait des Extra Light, hein, maintenant. Je pense que si j'ai à refaire, j'en prendrai un Extra Light.
Ouais. Ok,
Mais
bon.
ouais, il y avait ça. Et le fait qu'il fasse très chaud la nuit aussi, donc c'était pas évident.
Et est-ce que la chaleur plus les conditions tu vois, le manque de repos, etc., ça a eu un impact sur ta stratégie de nutrition ou même, tu vois, sur la digestion, etc. Ça s'est passé comment de ce côté-là?
Pas forcément. Généralement, que ce soit sur les trails ou n'importe quoi, j'ai pas du tout de soucis pour m'alimenter. Je suis capable de manger n'importe quand et n'importe quoi. Après, j'avoue qu'avec la chaleur, mais même les lyophilisés, on était tous un peu écœurés de ce qu'on avait emmené, donc c'était pas évident. Donc, on se force quand même pour pouvoir. Enfin, moi, je me force en tout cas et pour récupérer le max possible et pour le lendemain. Après, autant le lyophilisé, j'avais pris. Maintenant, il faut des choses très légères avec beaucoup de calories. Donc, j'ai vraiment privilégié le rapport calories sur le poids le plus grand possible. Ce n'était pas forcément très bon et c'était un peu toujours la même chose. Mais bon, voilà, ça me permettait quand même d'avoir quelque chose dans l'estomac. Par contre, sur les ravitaux de course, ça, j'en avais pas assez du tout. Et même tout m'écœurait aussi. Hein, c'est quand il fait chaud comme ça. Il n'y a pas de ravito du tout en nourriture. Donc, même pour le 90 km, on ne peut pas prévoir plus que, je ne sais pas, 5 bars, 6 bars, quoi, max. Parce que après, très lourd. C'est très, très lourd. Et puis même, quand il fait chaud comme ça, j'avais du mal à manger des bars, à manger. Même s'il y a des choses très, très bonnes, notamment chez NAC, que j'ai utilisé les petites gaufrettes et tout ça, ça passait encore. Mais sinon, c'était pas. Il aurait fallu peut-être des choses un peu comme de la compote, des choses qui passent bien, mais on ne peut pas se permettre de prendre de la compote parce que c'est trop lourd. Ouais. Ou alors, si, j'ai pensé peut-être à après, mais peut-être plus de compote lyophilisée aussi, ça existe.
Des compotes lyophilisées? Ah
oui,
ouais,
ça existe, donc, mais par contre, après, il faut gérer l'eau, il faut mettre dedans. Enfin, voilà, c'est pas forcément évident. Et puis, la compote, ça reste peu calorique, donc c'est pas l'idéal non plus.
Finale.
Donc, c'est quelque chose à optimiser, ça, les ravitaillements pendant la course.
C'est super intéressant parce que je trouve, tu vois, des épreuves comme ça qui sortent vraiment, en tout cas, de l'ordinaire de coureurs, on va dire, en France ou en tout cas, qui ne sont pas des coureurs marocains. Y a tellement de zones finalement que tu ne maîtrises pas ou auxquelles on n'est pas habitué que c'est riche en apprentissage. Est-ce que tu dirais qu'il y a des. Justement, tu vois qu'il y a des... t'as gagné en expérience sur des aspects de gestion de course, etc., qui te serviront, même si ce n'est pas sur un marathon des sables, avec toutes les spécificités d'une course comme ça.
C'est pas sûr. Enfin, c'est vraiment très spécifique. Et tous les points que j'aimerais améliorer, c'est plus vis-à-vis du marathon des sables.
Okay.
Un peu plus de confort, peut-être des choses finalement un peu moins caloriques, mais que je préfère manger. C'est des choses plus pour le marathon des sables. Après, oui, je pense que maintenant, je crains un petit peu moins la chaleur. Ça, je peux peut-être un petit peu mieux gérer parce qu'à la fin, j'ai compris qu'il fallait vraiment se mouiller tout le temps la tête, ce que je faisais jamais durant les trails de façon générale. Et on ne s'en rend pas compte qu'on prend vraiment un coup de chaud. Donc là-dessus, oui, s'il fait chaud, je pense que j'arriverai peut-être, hein, encore, je ne suis même pas sûre, un peu mieux à gérer. Peut-être pour d'autres courses à étapes, oui, ça peut servir.
Ça
peut servir ou des courses dans le sable ou des courses vraiment par grosse chaleur. Mais de façon générale, sur des trails où on a des ravitaux, où on a de tout, tout le temps, ça ne me servira peut-être pas vraiment l'expérience que j'ai eue au marathon des sables.
Ok. Parce que tu te projetais comment sur cette course en particulier? Est-ce que tu y allais pour la performance? Est-ce que c'était vraiment… entre guillemets, un tir d'essai, tu vois, pour te frotter à ce type d'épreuve, à étapes, dans un environnement particulier. Et à quel moment, et quel que soit, tu vois, l'état d'esprit dans lequel tu t'es lancé, à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que potentiellement, ça allait le faire, que tu allais finir, finir première?
Alors, au départ, j'allais vraiment pour la découverte et je voulais à tout prix finir. Savoir que j'étais capable de finir… en ayant finalement un minimum sur moi. Parce qu'en fait, ce sont des courses où les barrières horaires sont extra larges. Et en fait, tu peux la faire tout en marchant finalement. Donc, beaucoup de personnes sont capables de finir cette course. Bon, cette année, ça a été un peu exceptionnel parce qu'il y a eu 40% d'abandon du fait de la chaleur. Mais les autres années, il y a beaucoup moins. Il y a peut-être 5% d'abandon. C'est des courses où même en étant bon marcheur et en ayant l'habitude de marcher en très 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 longtemps sur des distances comme ça peut se faire. Donc bon, déjà mon objectif était de finir en courant et en étant plus ou moins bien entre guillemets et de pouvoir faire ces 6 jours et d'arriver à la fin avoir ma médaille finisher. Après, bon, j'avoue, je suis toujours un petit peu compétitrice quand même, donc j'avais regardé un peu qui y avait et bon, j'espérais faire un top 5 peut-être au départ. Surtout qu'il y avait des gens, la plupart là, des filles qui étaient fortes l'avaient déjà fait. Je pense notamment à Raina Deba qui l'avait gagné il y a 2 ans, qui était aussi sur la course. Il y avait une Marocaine, Aziza, qui était aussi forte et qui était déjà arrivée, qui avait déjà fait, qui avait l'expérience de la course et qui était arrivée deuxième. Enfin, il y avait certaines personnes comme ça. Donc bon, les trails, on ne sait jamais trop. Enfin, les ultra trails, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Donc oui.
Oui.
Je me projetais peut-être faire un top 5. Et après, j'ai commencé à me rendre. Enfin, c'est parti très très vite hein, sur les premières étapes. Ragna a fait tout le temps première. Et ben, moi, finalement, je me suis rendue. Enfin, j'étais, je crois, deuxième les 2 premières étapes. Même les 3 premières étapes. Donc là, ben oui, on commence à se dire qu'on peut-être faire quelque chose, quoi.
Ouais.
Après, j'appréhendais beaucoup et notamment tout le monde appréhendait beaucoup cette étape de 90 km/h, de 90 km. Tellement qu'on appréhendait que c'était un sujet tabou, en fait, plutôt. On n'en parlait jamais.
C'est vrai.
On disait, on verra bien, il ne faut pas trop se projeter, il faut faire étape par étape, mais on ne parle pas du 90, on en a parlé la veille, on a commencé à regarder la veille, quoi. C'est vraiment un sujet tabou parce que sinon, déjà que les 3 premières étapes sont dures, pourtant elles font tous entre 30 et 40 km. Et il vaut mieux pas s'imaginer l'étape de 90 degrés, de 90 km, sinon ça démoralise un peu. Donc j'apprenais vraiment cette étape-là, et ben, finalement, celle qui était tout le temps première sur les trois premières étapes a pris un gros coup de chaud et ben, elle a terminé très très loin derrière. Et c'est à partir de cette étape-là donc, que je suis passée première au classement général femme. Et il restait plus qu'une étape, donc l'étape marathon, et qu'il fallait que j'assure pour passer première sur toute la course. Mais oui, c'est à partir du 90 km, l'étape de 90 km, que j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais potentiellement terminer devant.
En et sachant là, il se passe
que
quoi,
le moindre coup de chaleur que tu as, il suffit que, bah, je sais pas, tu n'es pas bien sur l'étape du 42, la dernière étape. Tu te mets à marcher et ben, tu peux perdre des heures et des heures.
Et oui, bah, c'est ce que j'allais te demander. Du coup, tu vois, qu'est-ce que. Alors là, on parle du marathon des sables, mais vu le nombre de courses que tu as fait, je pense que ça a déjà dû t'arriver, tu vois, de te rendre compte que bah, ah, ça y est, la victoire, ça y est, c'est à portée de main. Généralement, comment est-ce que tu le gères, ça ? Est-ce que tu as une stratégie où tu restes quand même prudente ? Est-ce que tu lâches tes chevaux et tu vas à fond, quitte à ce que ça explose en vol ? T'as quoi comme approche habituellement?
Je sais pas lâcher les chevaux en fait. J'ai jamais
terminé une
course en étant complètement effondrée. Ça m'arrivera peut-être un jour, mais jusqu'à maintenant, je sais pas faire. Okay. Je sais pas me mettre dans le rouge. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être un blocage psychologique ou physiologique, hein, peut-être aussi d'ailleurs. Je sais pas faire. Donc, bah, je reste à mon rythme généralement. Je joue plus sur mon endurance et le fait que généralement tout le monde ralentit plus ou moins en fin de course, hein, de toute façon. Et j'ai jamais eu vraiment très très peu d'écart avec quelqu'un, à part sur les trails très courts, les trails d'entraînement ou les crosses, etc., où il fallait vraiment que j'accélère pour être sûre qu'elle ne me rattrape pas.
Ouais, ok.
Donc, pour revenir sur le marathon des sables, la dernière étape de 42 km, mon objectif. Donc, il y avait Aziza donc, qui était passé deuxième, qui était, j'avais creusé un écart de 30 minutes, je crois, en tout. Mais 30 minutes, ce que je disais, c'est que si on a un gros coup de chaleur quand on se met à marcher, ben voilà, c'est un passe devant, quoi. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs sur l'étape du 90, où finalement elle est arrivée devant moi parce que j'ai eu tellement un gros coup de chaleur que je me suis mise à marcher elle était au départ loin derrière, et ben elle a fini 10 minutes devant moi. Donc mon but de la dernière étape était de gérer pour pas garder, enfin pour garder au minimum, enfin de pas qu'elle me prenne ces 30 minutes là.
Ouais.
Donc je suis partie assez prudemment et je me suis mouillée tout le temps, j'ai bu, enfin je me suis surtout pas mise dans le rouge parce qu'il faisait encore plus chaud, je crois, ce jour-là. Et voilà, finalement, je suis arrivée première et elle m'a pas rattrapée parce que ben tout le monde avait tout donné à l'étape de 90 km. Mais voilà, j'ai vraiment géré dans la dernière étape, je suis vraiment pas allée à fond du tout, quoi. C'était je gère et surtout il fallait pas que je prenne de coups de chaleur.
Ouais, ok. Ce qui, ouais, c'est super intéressant ça aussi, tu vois, cette notion de gestion de l'effort. Finalement, c'est un peu le, tu vois, ralentir pour, enfin ralentir, non, parce que t'as pas ralenti, mais j'ai l'impression que ce qui semble très bien fonctionner chez toi, c'est la régularité, la consistance. De ce que j'entends, en fait, tu une fois que tu t'es mise dans une sur une allure, tu as cette capacité à rester dessus. Et ce qui te permet de finir en forme, en fait, entre guillemets.
Ouais, c'est peut-être ça. Par contre, ça peut être aussi un défaut du fait que ben je peut-être que je peux donner encore un peu plus, mais que je sais pas le faire.
Ouais.
Qui peut faire okay. La différence avec quelqu'un qui va encore plus vite, quoi. C'est où j'arrive à passer ce cap, quitte à un jour à vraiment être épuisé et à ne pas pouvoir finir une course à cause de ça. C'est les seules fois où j'ai pas pu finir une course, en fait, c'est parce que j'avais été blessée. C'est pas parce que j'avais été pas bien durant la course.
Ok. Super intéressant. Marathon des Sables, donc c'était il y a quelques mois déjà. T'as enchaîné assez rapidement, j'ai l'impression, avec d'autres courses. Je pense que ce sera du coup ma dernière question. C'est même si t'es pas encore pro, t'as un rythme qui est quand même finalement celui d'une athlète élite. Hein. Si on dit qu'élite, c'est aux portes du professionnel, t'es clairement là-dedans. Et je trouve ça, moi, super impressionnant de voir la capacité que des athlètes, des femmes, des hommes comme toi, que vous avez à finalement enchaîner des efforts qui sont importants. Tu dirais que physiologiquement, tu vois, ou même mentalement, il faut combien de temps généralement pour te sentir complètement remise d'une épreuve. Alors le marathon des sables, c'est un peu particulier, mais peut-être, tu vois, d'un UTMB, d'un Eco Trail Paris, pour parler de quelques courses, d'autres courses que tu as faites et remportées d'ailleurs. Habituellement, tu as une période de repos à laquelle tu t'astreins ou pas forcément?
Alors, j'ai l'impression, mais je suis pas sûre, que je récupère de plus en plus vite. Alors, je sais pas si c'est mon corps qui réagit de plus en plus. Enfin, qui s'habitue finalement à récupérer de plus en plus vite ou pas. Après Marathon des Sables, c'était un peu plus mental, surtout que j'avais plus du tout envie de courir pendant quelques temps et que j'avais vraiment, enfin, c'est quand même ces 7 jours de trail plus tout le reste à côté et voilà, le fait qu'on dort pas bien, qu'on mange pas bien, bon, c'était un peu plus, j'ai eu un peu plus de récup, mais généralement, je récupère très très vite. Par exemple, pour le Lavaredo, donc, qui était ma dernière course. Donc le lendemain j'étais un peu fatiguée, mais le lundi, donc 2 jours après, je me sentais comme si, enfin, pas comme si j'avais rien fait, mais je me sentais très très bien. Et j'ai notamment enchaîné sur du vélo parce que là-bas c'est tellement beau que bon voilà, j'ai fait toute l'école de vélo, j'ai fait des 100 km d'un vélo le lendemain, enfin 2 jours après. C'était après on est censé avoir une période de récup, donc mon entraîneur m'avait quand même mis 10 jours de récup à rien faire, mais je lui avais dit que je ne peux pas les respecter parce que là-bas, c'était tellement beau qu'il fallait que je fasse du vélo.
Excellent. Il faut quand même
généralement quelques jours. Après, c'est vrai que j'ai tendance à bien récupérer. 2 jours, 3 jours.
Oh là, c'est impressionnant.
Si je ne suis pas blessée et qu'il n'y a pas des douleurs quelque part, voilà, ça peut arriver. Hein, j'ai eu un peu mal. Après certaines courses, quand j'ai été blessée, c'était beaucoup plus long, mais c'était plus dû à la blessure que à la fatigue.
Ok. Impressionnant. Eh ben, écoute, je t'avais dit que c'était la dernière question, mais en fait, j'en ai encore une dernière promis pour conclure tout ça. Sur quel projet est-ce que tu te concentre d'ici fin 2023? Est-ce qu'il y a une course en particulier, un voyage, un retour au Népal? On n'aura pas pu en parler, mais j'ai vu que tu avais fait un voyage visiblement qui t'a marqué au Népal. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier sur lequel tu te concentres d'ici la fin de l'année?
Alors oui, très bientôt, là, je vais faire la TDS.
Ah, excellent.
Fin août. Donc là, je suis en pleine prépa et fin de semaine, je monte à la montagne pour aller m'entraîner avec mon petit van pendant 3 semaines.
Génial. Du côté de Chamonix, du coup, pour être proche de la trace?
Non, je ne vais pas aller aussi loin là. Je vais aller du côté d'Oron plutôt, je pense.
D'accord.
C'est pas okay. Très loin et non, je n'avais pas envie de trop faire de trajet. Et puis, il faut que je reste près de ma famille là en ce moment. Donc voilà, je ne voulais pas aller trop loin. Mais voilà, c'est la TDS.
TDS donc. Ok.
Mais tu dois bien connaître, il paraît que tu as fait la PTL.
Ouais, alors bien connaître la TDS, non, mais ouais, j'ai fait la PTL ouais, l'année dernière. C'était long et par contre, moi, le ratio course à pied marche était carrément l'inverse de ce que tu as fait sur le marathon des Sables, tu vois, donc c'était plutôt même 95% de marche, 5% de course. Mais c'était déjà suffisant en termes d'effort, donc ouais. Mais si tu cherches un truc aussi long que le marathon, enfin aussi long, bah non, ce serait plus rapide, mais une épreuve un peu longue, je te recommande la PTL en termes d'expérience de partage, c'est assez chouette, c'est forcément en équipe.
Ça a l'air très chouette, mais bravo de l'avoir terminé, hein. C'est un beau challenge.
Merci. Ouais, c'était un gros chantier. Eh ben merci beaucoup Marilyn, on arrive au bout, c'était génial d'en apprendre plus sur ta pratique et puis surtout sur cette expérience récente du Marathon des Sables et ta victoire, encore bravo pour ça. Et puis excellente prépa pour la TDS alors.
Merci beaucoup, ce fut un plaisir d'échanger avec toi.
Merci Marilyn, bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci d'avoir écouté cette conversation avec Marilyn jusqu'au bout. S'il y en a à qui ça a donné envie d'aller se frotter au désert marocain, dites-le moi. Envoyez-moi vos feedbacks sur le compte Instagram du podcast lesfrappés.podcast ou par email à hello@lesfrappés.com. Je vous propose chaque semaine du contenu entièrement gratuit que je m'efforce de rendre le plus qualitatif possible. Pour remercier tous ces frappés inspirants que je reçois, prenez quelques secondes maintenant pour laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Pensez également à partager cet épisode autour de vous à toutes les personnes qui sont intéressées par les sujets d'aventure, de dépassement et évidemment d'ultra-trail. Merci pour votre fidélité, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode avec un aventurier qui a nagé de Calvi à Monaco en totale autonomie et presque sans assistance.